Aurovilliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre de la transformation qui est le chapitre 17. Alors le chapitre s'appelle la deuxième phase, le corps. Le corps de Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Lorsque cet Agni brûle dans le vital, dans nos moments d'appel, de force ou d'ouverture cosmique, c'est comme une pulsation serrée à la hauteur du nombril, presque un tremblement de fièvre par tout le corps. Et c'est beaucoup de force qui entre dans le channel minuscule. Mais que dire de ce poudroiement d'or chaud, ce vin d'éclair dans les cellules du corps? Ça commence à bouillonner partout, dit Mère, dans son simple langage, comme une chaudière qui va éclater. L'Irishi aussi disait que si l'on va trop vite, on se brise comme une jarre mal cuite. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est-à-dire, les rishis avaient raison, il ne faut pas aller trop vite, sinon on est brisé comme une jarre mal cuite. C'est l'ego, l'ego vital ou l'ego mental. En outre, il s'agissait simplement de créer quelque chose de toute pièce. Le problème serait relativement simple, mais il faut faire avec ce que l'on a. Il faut passer d'un état actuel à un autre état, d'une vieille organisation à une nouvelle. C'est ce qui est en train de se passer dans l'histoire d'Auroville. Il y a un vieux cœur qui est là, des vieux poumons. À quel moment, remarquez Mère? Va-t-on arrêter le cœur pour lancer la force en circulation? C'est le passage qui est difficile. Il faut d'innombrables expériences répétées, de minuscules expériences infiniment dosées pour habituer les cellules afin qu'elles ne s'affluent pas dans la transition. Le premier problème est donc d'adapter le corps. Et c'est pour cela qu'il faut des années, peut-être des siècles. Sri Aurobindo a travaillé pendant 40 ans et la mère pendant 5 ans à cette adaptation. La nécessité pratique immédiate est donc de durer. Il faut aller plus vite que la mort. Au fond, dit la mère, la question est de savoir. Dans cette course vers la transformation, lequel des deux arrivera le premier? Celui qui veut transformer son corps à l'image de la vérité divine ou à la vieille habitude de ce corps d'aller en se décomposant? Car naturellement, il faut que le travail soit fait en une vie. On peut d'une vie à l'autre trouver les progrès antérieurs de notre âme et de notre mental, même de notre vital, qui se traduiront en cette vie par des éveils spontanés, des facultés innées, un développement déjà acquis. Il suffit de répéter un peu sa leçon pendant 10 ou 20 ans et on reprend le fil des vies précédentes. Il y a même une expérience assez saisissante où l'on voit exactement le point où s'achève le déjà fait des vies passées et où commence le progrès nouveau. on renoue le fil, mais le corps, mais pour le corps, le progrès cellulaire, le progrès de la conscience physique ne peut pas passer dans une vie suivante, c'est évident. Tout s'éparpille sur le bûcher ou dans la terre. Si l'on veut qu'il y ait une continuité dans l'évolution humaine, si l'on veut que l'être supramental apparaisse dans notre chair et non dans quelques organismes nouveaux, inconnus, qui supplanteraient notre humanité mentale, il faut qu'un être humain réussisse l'opération en une vie. Si l'opération réussit une fois, elle pourra se transmettre à d'autres. Nous y reviendrons. Sri Aurobindo disait qu'il faudrait 3 siècles et il avait la vision claire avant qu'un être supramental complet puisse apparaître, lumineux, léger, etc., tel que nous avons tenté de le dépeindre. Par conséquent, il faut au moins, à défaut d'un être supramental complet, Platon non plus n'est pas né en un jour, fabriquer dans notre chair un être de transition, un chaînon entre deux types humains et surhumains, c'est-à-dire un être qui aura non seulement réalisé la conscience supramentale, mais dont le corps aura à la fois assez d'immortalité, si l'on peut dire, pour durer pendant la période de transition et assez de pouvoir et de souplesse pour opérer sa propre transmutation, ou sinon presque engendrer par sa propre énergie un être supramental sans passer par les normes ordinaires de la naissance terrestre. Tout d'abord, la durée. Le progrès d'Agni dans le corps dépend, semble-t-il, de ces 2 conditions. Le travail reste donc toujours un travail de conscience. Une fois cette immobilité cellulaire relativement établie, nous ferons une première découverte. Nous nous heurterons à un obstacle majeur qui est une aide majeure dans le travail de transformation. Car toujours, sur tous les plans, l'opposition est exactement adaptée à la force qu'il faut pour faire un pas en avant. C'est le poids mort et le levier. Déjà, nous avons reconnu sous notre mental pensant un mental vital qui trouve des justifications merveilleuses à tous nos désirs, nos impulsions, puis un mental physique qui répète et répète 1000 fois les mêmes incidents comme une scie. Que dire de ce travail? Il est infinitésimal et la façon de faire n'est pas d'entrer en des méditations profondes qui ne touchent que le sommet de notre être, pas de réussir des concentrations ou des extases extraordinaires, mais d'être en plein dedans, de travailler au niveau du corps tout en bas à chaque minute du jour et de la nuit. C'est pourquoi Sri Aurobindo insistait tant sur la nécessité du travail extérieur et des exercices physiques les plus ordinaires, parce que c'est la seule façon de se mesurer avec la matière et de pousser dedans un peu de conscience vraie, ou plutôt de permettre à Agni d'émerger librement. C'est pour cela qu'il marchait tant d'heures chaque jour et travaillait toutes ces heures de la nuit. Au milieu de ce travail extérieur, et grâce à Sri Aurobindo, le chercheur verra émerger toutes les vibrations fausses, tous les faux plis du corps, comme des mers. Et chaque vibration fausse devra être rectifiée. Mais c'est encore une façon négative de dire les choses. En vérité, il n'y a qu'une seule grande vibration de joie divine dans le monde et en toute chose, la vibration. Car le divin est joie. Dès qu'il y a fausseté et qu'elle s'introduit, c'est cette même vibration qui décolore, qui se durcit, se tend, tout grince. La souffrance est le plus sûr indice de la fausseté. La douleur, le mensonge du monde. La douleur est le mensonge du monde. Tout le travail du chercheur n'est donc pas tant de lutter contre les vibrations dites mauvaises que de garder la vraie vibration, la joie divine dans le corps, qui, elle, a le pouvoir de remettre en ordre, de détendre, d'harmoniser, de guérir toutes ces petites vibrations serrées, usantes, mensongères, dans lesquelles nos cellules vivent constamment. Il serait fastidieux, aussi fastidieux que le travail lui-même, de décrire les innombrables faussetés du corps par où s'introduisent le vieillissement, la maladie et la mort. Faites chaque chose de la vraie manière, dit Mère. Il y a d'innombrables manières fausses de les faire dans les moindres gestes quotidiens. À titre d'exemple, nous ne soulignerons ici qu'un point de travail parmi tant d'autres. Nous faisons tout dans la tension, dans la précipitation, n'importe comment, inconsciemment, devant les mille et une sollicitation de la vie extérieure, sans parler des chocs, nous nous comportons physiquement comme le patient dans le fauteuil du dentiste, tout est crispé, recroquevillé par la hâte, par peur, par anxiété, par avidité. C'est l'héritage de quelques millions d'années d'animalité. Notre substance se souvient d'avoir lutté pour survivre. Elle est tout le temps à se durcir. Ce durcissement est l'une des causes de la mort et le grand obstacle à l'établissement de la vibration vraie. Quand nous nous durcissons sous un choc, nous ramassons toute notre force vitale en un point, comme si une défense brusquement un énorme courant passe par un orifice minuscule qui tourne au rouge et fait mal. Si nous apprenons à élargir notre conscience physique et à absorber le choc au lieu de le rejeter, nous ne souffrirons pas. Toute souffrance est une étroitesse de conscience à tous les niveaux. Mais on comprend que si, d'un seul coup, se précipiter dans les cellules ce poudroiement d'or chaud supramental que le corps réagisse par son durcissement habituel, tout éclaterait. C'est-à-dire que notre conscience cellulaire, comme notre conscience mentale et vitale, doit apprendre à s'élargir et à s'universaliser. Il faut que là aussi, la conscience cosmique s'introduise. Dans le silence mental, la conscience mentale s'universalise. Dans la paix vitale, la conscience s'universalise. Dans l'immobilité du corps, la conscience physique s'universalise. Immobilité, réceptivité, élargissement cellulaire sembleraient parmi les conditions de base pour que la substance puisse supporter agni et durer. Mais tout d'un coup, une énorme difficulté surgit. Universalisation de la conscience physique, mais alors il n'y a plus qu'un corps. Tous les corps lui tomberaient dessus. Tous les mensonges du monde sont là. Ce n'est plus la bataille d'un homme, c'est la bataille de tout un monde. Et Sri Aurobindo écrit un petit poème. J'ai creusé longtemps, profond, dans la fange et la boue, un lit pour la chanson d'une rivière d'or, une demeure pour un feu qui ne meurt jamais. Mes plaies sont mille et une. Et là, Sri Aurobindo doit faire face à toutes les difficultés. Même la mort, non pas les détruire, mais pour les changer. La transformation. On ne peut rien transformer sans prendre tout sur soi. Je porterai toute chose pour que toute chose puisse changer, dit Savitri. C'est pourquoi Sri Aurobindo a quitté son corps le 5 décembre 1950, officiellement d'une crise d'urémie. Lui qui pouvait guérir les autres en une seconde. Mourir sur la croix est émouvant, certes. Mais les crucifixions, surtout quand on les adore, ne font que perpétuer la loi de la mort. Ce n'est pas un corps crucifié qui sauvera le monde, dit Mère, mais un corps glorifié. Non, ce n'est pas un travail spectaculaire, c'est bien un travail microscopique. C'est dans le bout du monde qu'il faut creuser. Alors la deuxième phase, le subconscient. L'émergence d'un degré nouveau dans l'évolution, que ce soit-elle de la vie dans la matière ou du mental dans la vie, s'accomplit toujours sous une double poussée, une poussée du devant et une poussée d'en bas, du principe involué qui cherche à émerger et une poussée du dehors ou d'en haut, du même principe tel qu'il existe déjà sur son propre plan. La conjonction de ces deux poussées, par exemple du mental involué, dans certaines formes vivantes et du mental tel qu'il a été formé sur son propre plan au cours de l'évolution descendante ou d'évolution, finit un jour par provoquer un déchirement des limites vitales et brusquement l'émergence vitale mental dans la vie. Tout est involué, tout est déjà là dans la matière. Mais l'involution ne peut pas se défaire que par la pression d'en haut qui répond à l'appel d'en bas et brise le sceau comme le soleil brise le tegment de la semence. Actuellement, le supramental involué dans la matière pousse du dedans, sous forme de tension spirituelle, d'aspiration terrestre à l'immortalité, à la vérité, à la beauté, à la joie. Et en même temps, il presse d'en haut de son propre plan éternel sous forme d'intuition, de révélation, d'illumination. C'est ce que l'Écriture exprime à sa façon lorsqu'elle joint inséparablement l'apparition de la terre nouvelle et l'apparition de nouveaux cieux. Et de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la vérité habitera. Parce que sans ces nouveaux cieux, ou plutôt ce nouveau degré de conscience supramentale, l'émergence d'une nouvelle terre ne peut pas se produire. La terre nouvelle sera le produit des nouveaux cieux de la conscience supramentale, de même que la terre actuellement est le produit du vieux ciel mental ou surmental des dieux et des religions, et ainsi tous les degrés de l'évolution, le haut et le bas, se tiennent. Mais l'émergence du nouveau haut et du nouveau degré de conscience à un stade quelconque de l'évolution n'est pas une magie soudaine qui change tous les degrés anciens. Entre l'apparition des premiers amibes sous le ciel de la vie et celle des mammifères, nous avons les millions d'années qu'il nous a fallu surmonter l'inertie matérielle et la vitaliser dans la matière. De même, entre l'apparition de l'homme de Néandertal et celle de Platon, il a fallu des millions d'années pour surmonter la résistance des deux degrés précédents et mentaliser la vie, devenir l'homme mental complet. Encore aujourd'hui, combien d'hommes vivent-ils vraiment sous le signe mental et non sous le signe des passions de la vie? Alors aujourd'hui, je termine par ce texte absolument merveilleux entre le changement dans le corps et dans le subconscient. Le chapitre 17, la transformation de l'aventure de la conscience de Sri Aurobindo, écrit par Saprem. Je remercie Priya pour cette lecture également. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère, Ganga Lakshmi, Auroville, Citizen of the World. Thank you.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.